Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les amis, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est évidemment le PSG qui se déplace ce soir à Lille, 20h45 à vivre en direct sur RMC. Paris s'est imposé cette semaine à Barcelone avec 5 Titi, comme on les appelle, les jeunes du centre de formation, dans le groupe, dont 3 étaient même titulaires. Il a fallu donc faire preuve de personnalité dans le 11 des champions d'Europe, contre l'autre meilleure équipe d'Europe, en fait, qui jouait chez elle. Et ils l'ont fait. Tiens, je voudrais qu'on écoute Luis Enrique parler justement de ces jeunes avec de la personnalité.
Il y a une connexion réelle et vraie. Quand tu es l'entraîneur de la première équipe, c'est facile. Tu as besoin de quelques joueurs et tu les prends. Et ce qui est différent, je pense, en rapport à le passé, c'est le caractère des joueurs, de la jeune. Parce qu'ils sont très ouverts, ils sont très courageux. Quentin Jantou, il a fait le début à Barcelone, un match de Champions League, et j'étais plus nerveux que lui. Le plus important, c'est être content de voir tout le monde ensemble. Et je pense qu'on a montré ça, non seulement les derniers semaines, mais il y a très longtemps.
Les jeunes aujourd'hui sont très courageux et Luis Enrique était plus nerveux que les jeunes qu'il a lancés à Barcelone. Intéressant. Les GG, à travers vos expériences, bah comme ces Titi l'ont fait à Barcelone, je voudrais qu'on parle ensemble de ça. Comment on s'impose en fait quand on arrive chez les grands, comme on dit. Vous l'avez tous fait dans votre carrière. Fred Weiss, comment on s'impose chez les grands? Toi, t'as connu ça?
Ben, j'ai connu ça parce que je suis sorti de l'INSEP. Et je suis arrivé à Limoges. Limoges qui était une équipe depuis peu championne d'Europe de la grande compétition européenne bien avant Marseille.
C'était le PSG en foot actuellement. En fait,
hein. Oui. Et c'est surtout la première équipe française à s'imposer sur une compétition européenne de cette envergure. Tu arrives dans l'équipe, il y a Richard Dacoury, Jim Bilba, Fred Forte, qui sont tous les trois évidemment des membres incontestables et incontestés de l'équipe de France.
Des monstres.
Yann Bonato et Hugo Grancet qui viennent en plus se rajouter à ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? T'as déjà ce syndrome de l'imposteur au départ, et tu sais pas comment trop t'adapter. Première passe que Richard Dacoury me fait, je me rappellerai toujours, je tremblais tellement que je la prends dans la tête. Donc, pour dire à quel point j'étais vraiment stressé. Et c'est là que je pense que l'adaptation se fait aussi grâce à l'intelligence des vieux et leur envie de transmission. Moi, j'ai eu Fred Forte qui me parlait beaucoup. Yann Bonato venait me chercher devant chez moi pour m'amener à l'entraînement. On parlait, il m'expliquait. Et ils m'ont expliqué quelque chose de très simple, en tous les cas pour le sport collectif, parce que le sport individuel, je connais un petit peu moins, évidemment. Mais pour le sport collectif, ils m'ont dit, fais des choses simples. Rassure ton entraîneur pour te faire jouer, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, défends bien, fais pas d'erreurs, et bats-toi sur tous les ballons. Et avec ça, bah, petit à petit, tu grappilles du temps de jeu. Mais je crois que par rapport à ça, on a beaucoup évolué, et les jeunes ont plus confiance en eux, sont plus sereins, et ils ont moins besoin de ça. Mais quand je pense à Bilal Koulibaly, par exemple, qui a explosé aux yeux de tout le monde.
Qui joue à Washington.
Qui joue à Washington maintenant, mais quand il a commencé, il était espoir. Il a eu des minutes par Vincent Collet. Pourquoi? Parce que quand il était sur le terrain, il faisait pas d'erreur. Il défendait bien. Et il donnait ce qu'on lui donnait. Donc franchement, je pense que ça a un peu évolué par la confiance. Mais je crois que les anciens sont très importants pour ça.
Marc?
Dans tous les sports, il y a cet aspect de l'arrivée chez les grands. Moi, j'ai connu la fin d'une époque où, dans le cyclisme, par exemple, au restaurant, dans les stages d'entraînement, il y avait une table réservée pour ceux qui avaient fait le tour. Il y avait les coureurs de l'équipe du tour qui étaient à une table et les autres aux autres tables. Il y avait aussi dans les chambres, quand vous êtes en équipe, il y a deux lits par chambre. Mais souvent, il y a un grand lit et un petit lit. Et le grand lit était toujours réservé aux plus capés et aux plus expérimentés.
Tout ça
pour vous donner un petit peu l'ambiance qui régnait dans ces époques. Mais il y a un endroit, et un seul, où on remet les pendules à l'heure et où on s'exprime et où on fait sa place. C'est d'abord dans les stages d'entraînement. Dans les stages d'entraînement, on fait souvent des longues sorties d'endurance. Et on roule en général deux par deux. Et on se relaye tous les 5 kilomètres ou toutes les 10-15 minutes, on tourne les deux par deux. Il y a un truc qui marchait et qui marche toujours très bien, qui est immuable dans le temps, quels que soient les moyens de contrôle et de maîtrise de l'entraînement, il y a un truc qui marche toujours. c'est le quart de roue d'avance. Tous les cyclistes qui nous écoutent en ce moment savent de quoi je parle. Le quart de roue d'avance, c'est le petit avantage de votre roue que vous mettez sur votre coéquipier qui est à côté de vous pour avancer. Et il y a toujours un moment où il y en a un des deux que ça énerve, il y en a un des deux qui a plus mal aux jambes que l'autre, et c'est là où on commence à faire la différence par rapport à ses coéquipiers, et où on commence à s'imposer. En un mot, moi je dis toujours aux jeunes quand ils arrivent dans l'équipe, faites mal aux anciens. Quand vous êtes à l'entraînement, n'ayez pas peur d'avoir le quart de roue d'avance et n'ayez pas peur de leur faire mal aux jambes. N'ayez pas peur. Que ce soit à l'entraînement d'abord et en course ensuite, n'hésitez pas. Si vous voulez gagner le respect des anciens, c'est en leur faisant mal. Si vous ne faites pas mal, vous n'êtes pas respecté.
Comment s'imposer chez les grands, c'est le sujet du vestiaire. C'est ça que tu faisais, David ? Tu essayais de faire mal aux plus grands quand tu arrivais ?
Aux grands, aux petits, à tout le monde.
C'est quoi ton histoire ?
Ben non, quitte à vous décevoir, non, malheureusement, parce que il y a une différence entre les sports d'équipe et les sports individuels. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance quand tu arrives dans une équipe, ce qui n'est pas le cas lorsque tu arrives sur un tapis d'entraînement où à l'âge de 16 ans, tu arrives à l'INSEP, il y a les équipes de France qui sont là, juniors, seniors, et il y a un écart d'âge et un écart physique tel que, moi, la première année où j'arrive sur ce tatami, où il y a les meilleurs Français, j'en ai pris. Toi, tu arrives de ton sport-études, où tu es un peu le taulier, tu es un peu le cador, etc., tu es champion de France cadet, machin, etc. Et là, tu arrives, et du jour au lendemain, pendant plus d'un an, tu ne fais plus tomber personne. Et là, tous les jours, tu en prends plein la tête. Et je dois dire que chaque jour, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible, c'est insurmontable, c'est tellement dur, tu te blesses. Ils s'en fichent complètement, voire même quelques-uns, un peu plus vicieux que les autres, chez les anciens, te poussent vers la blessure, voire même assez méchant vis-à-vis de toi. Ouais. Et j'en arrête là parce que ça sert. Mais malgré tout, ça a été la plus belle des écoles. Et je les remercie tous pour ça parce que dans cette dureté, dans cette meute de loups où il y a le mal alpha qui est le membre de l'équipe de France, qui est le numéro un, et tous ceux qui le suivent derrière, 2, 3, 4, 5, 6, et tous les jours, tout le monde se jauge, tout le monde se s'étalonne, etc. Et chaque jour, le statut du numéro 1, à l'entraînement, je parle, hein, est quasiment un peu remis en question, enfin, est totalement remis en question. Toi, t'arrives là, t'es un bébé, tu te fais broyer dans la machine. Mais quelle école ? Parce que sans aucune bienveillance, tu craques ou tu passes, quoi. C'est le plus beau des sas pour justement partir la deuxième année et la troisième année sur la meilleure route pour toi un jour être le numéro un.
Ouais, mais parce qu'il y a justement ce ça passe ou ça casse. C'est oui. Difficile à entendre quand même parce que c'est.
Mais c'est la vérité.
Bien sûr, mais tu me dis que c'est la meilleure école.
Mais surtout aujourd'hui, on dénonce beaucoup les bizutages et tout. Voilà,
Mais je parle pas de bizutage. Il faut quand même expliquer que justement, ça te forge une mentalité et que dans le sport de haut niveau, t'as besoin de cette mentalité. Mais c'est vrai que ça peut être inentendable pour quelqu'un qui veut pratiquer du sport ou que ses enfants pratiquent du sport. Qu'en gros, il faut te casser. Vous me passerez l'expression. Il faut te casser la gueule pour qu'après tu puisses être reconstruit et faire autrement.
Je suis d'accord.
T'es pas reconstruit. T'es pas détruit, hein, attention. Hein. Je dis pas que c'est extrêmement dur. T'es à la limite. T'es sur le fil du rasoir, mais t'es pas détruit. Et la deuxième année, tu dis waouh, j'ai tenu. C'est à moi de mordre maintenant. Non, et t'y vas petit à petit.
De toute façon, t'as pas le choix. Les places sont limitées.
C'est mordre ou être mordu.
Les places sont limitées. Moi, j'ai connu.
Mais c'est le haut niveau.
Des sorties d'entraînement, notamment au début de saison avec Bernard Hinault était un monstre de coureur. Mais à l'entraînement l'hiver, c'était pas le plus pressé, on va dire. Mmh. Et je me souviens de stage au mois de janvier où sur la Côte d'Azur, le blaireau, il était dans le dur. Et on finissait l'entraînement, il disait ouais, vous verrez, on en reparlera au mois de juillet, il y aura plus personne pour faire le boulot. Mais on sentait bien que ça lui faisait mal aux jambes. Et je me souviens d'une réflexion un jour de Laurent Fignon vis-à-vis de Bernard Hinault. Laurent lui dit Bernard, t'as qu'à aller t'entraîner. Et là, temps d'arrêt, je peux vous dire que les sorties d'entraînement après, ça rigolait plus. Mais il y avait une stimulation et la place et le respect, encore une fois, le respect
c'est ça,
de ses coéquipiers.
Et que tu imposes.
On le gagne en montrant qui on est, en faisant mal.
Exactement.
Mal. Le mot mal, c'est la douleur physique à l'entraînement. Et c'est là qu'on gagne.
C'est la bascule.
Si on n'a pas ça, si on ne fait pas ça, on n'est pas respecté. On peut faire tous les beaux discours, les coups de violon, l'intégration des jeunes, les machins. C'est du pipeau.
Non, mais en fait, ils sont très sympas tant que t'es pas le meilleur.
Mais hein. Voilà.
En fait, tant que t'es pas le meilleur, ils sont très sympas. C'est la bascule exactement. Qu'il faut réussir
ils à opérer. Ils t'aiment bien, mais ils te respectent pas.
Ils t'aiment bien. Mais c'est exactement ça. C'est qu'au début, ils sont tous très gentils. Mais à partir du moment où tu deviens le meilleur, ça les embête un petit peu. Et d'un seul coup, c'est là qu'il faut être encore plus dur mentalement. Parce que là, tu sais que tu vas prendre des coups. Je parle pour les sports courts, encore une fois. Là, tu sais qu'ils te veulent pas forcément du bien. Et que, il y a des copinages aussi dans les équipes de basket. Et que comme par hasard, partout, tu vas faire les passes à l'opposé de toi. Et tu vas pas recevoir le ballon. Comme par hasard. Comme par hasard, il va y avoir une défense. Personne viendra t'aider. Mais par contre, quand toi t'aides pas, on fait bien des gestes pour que le coach voit que toi t'as pas aidé. Et c'est là que, effectivement, c'est la bascule. Que tu mûris plus vite. Parce que tu sais que si c'est toi contre le reste du monde, en fait, même dans une équipe collective, tant que t'es pas le meilleur, tout se passe toujours bien. Dès que tu commences à être un danger potentiel, attention.
Comment s'imposer parmi les grands? C'est notre sujet du vestiaire aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Simon, qu'est-ce que ça t'inspire?
Moi, de mon point de vue d'observateur extérieur, et en schématisant un petit peu, j'ai l'impression que le logiciel s'est inversé. Je pense qu'il y a 20, 30, 40 ans, les jeunes étaient un petit peu impressionnés par les anciens ou avaient un petit peu peur des anciens et que désormais ce sont les anciens qui voient les jeunes arriver et qui les regardent un petit peu du coin de l'œil avec beaucoup moins d'assurance. Je pense, on en parle souvent ici, que les jeunes sont mieux préparés qu'avant, sont plus programmés pour accéder à ce niveau-là, et que du coup, ils regardent un petit peu moins les légendes, les champions en contre-plongée. Ils ont plus la sensation finalement de pas être à leur place. Il y a une impatience, je pense que qui s'exprime en tout cas d'une façon plus décomplexée.
Mais qu'à une époque, les jeunes sont plus reste.
Oui,
le défi est là.
Les jeunes sont plus pressés qu'avant, et je pense que en valeur absolue, l'écart bien souvent de niveau de performance, il est peut-être un peu moins grand qu'à une certaine époque.
Mais Simon,
j'ai l'impression que pour le jeune, l'ancien c'est au mieux un modèle, au pire un obstacle quoi qu'il va falloir.
C'est plus souvent un obstacle et ça a beaucoup changé.
Après, ça dépend des sports.
J'ai un élément de comparaison.
J'ai l'intuition que les jeunes sont peut-être un petit peu moins en recherche de s'abreuver de conseils ou d'expérience des anciens parce qu'encore une fois ils arrivent avec un petit peu plus de certitude en disant bon écoutez vous êtes mignon oui merci pour tout mais
et
on va s'en occuper.
C'est un passage obligé juste c'est tout.
Ça dépend.
Ils doivent juste passer devant toi c'est tout. C'est leur objectif c'est passer devant toi ils s'en foutent de toi en fait.
Ça dépend des sports dit David.
Ouais. Non, ça dépend des sports, parce qu'il y a des sports avec des maturités plus tardives, et c'est comme ça. Puis ça dépend le moment où tu rentres, parce que je vous assure, hein, les écarts physiques de quelques années, d'un an, deux ans, trois ans, quand tu as 16 ans et quand tu as 19 ans ou 20 ans, c'est plus du tout la même. Et quand tu es confronté très très jeune à des seniors qui ont 20, 25, 30 ans pour certains, les écarts sont abyssaux, tu vois, c'est voilà, donc faut ça dépend des disciplines, ça dépend des maturités physiques et voilà, c'est chaque sport a sa typicité, sa particularité. Et je reconnais que dans certaines disciplines, peu importe l'âge, t'arrives à mordre les mollets beaucoup plus tôt, de manière beaucoup plus vive, peut-être plus qu'avant qu'avant. Voilà.
Moi, je vais rebondir sur ce que disait Simon. Oui, et je pense que les vieux aussi sont beaucoup plus sympathiques. Moi, quand je suis arrivé à Limoges, certains vieux, j'ai expliqué, hein, étaient là pour m'accompagner, mais d'autres non. Ouais. Au contraire, certains me faisaient porter les sacs. D'autres, j'ai juste une anecdote, je citerai pas le joueur, mais j'étais dans la chambre avec un joueur, on revient de l'entraînement. Le mec me dit, va te doucher en premier. Je vais me doucher en premier. Et donc, il va juste après moi, il rentre dans la salle de bain, il me dit, mais c'est tout mouillé par terre. Ben, je dis, dans la baignoire. Ben, je dis, oui, j'ai pris une douche. Il dit, non, moi, je veux prendre une douche. Comme si c'était la première fois que quelqu'un prenait une douche. Donc il m'a fait essuyer la baignoire devant lui, j'étais à genoux à nettoyer. les vieux de maintenant le font plus non plus. Donc il y a eu cette évolution. Alors oui, les jeunes ont plus de confiance, etc. Mais les vieux ont subi des choses et sont plus tolérants et plus gentils aussi.
Plus gentils que
beaucoup plus gentils. Rien à voir.
Mais il n'empêche, c'était quand même un moyen de faire le passage et de gagner sa place. Et la place, on te la donne pas. On te la donne pas. Prendre.
Il y a une expression que tu as utilisée tout à l'heure, Fred, qui je pense est importante dans ce sujet, c'est le syndrome de l'imposteur. En arrivant dans une équipe qui parfois est installée parce qu'il y a des champions, c'est ça le plus grand défi finalement. Vous l'avez, toi tu l'as senti, Fred?
Honnêtement, moi je l'ai senti parce que moi je sortais de l'INSEP et à l'INSEP à l'époque on nous demandait pas forcément de gagner, donc j'étais un mec qui venait de nulle part, qui n'était pas professionnel, qui arrivait dans le plus grand club de France. Et donc forcément, quand tu vois tous ces joueurs incroyables autour de toi, il faut que déjà tu dises un jour j'aurai leur niveau. Déjà, il faut se dire ça. C'est pas du style j'ai leur niveau, c'est un jour j'espère avoir leur niveau.
Parce que là, par exemple, Mbaye, Mayulu qui prennent la place de Dembélé, Kvaratskhelia dans le 11 de départ, qui sont blessés.
Et c'est là que je trouve ça très bien que les jeunes ont cette confiance en eux. Moi, un mec comme Tony Parker, quand il est arrivé en équipe de France, il pensait que c'était le meilleur déjà. Et avec notre
mental. T'as vu arriver Tony Parker?
Moi, j'ai vu arriver Tony Parker et quand il est arrivé, et nous, tout le monde disait, mais c'est qui ce petit prétentieux là? Sauf que. Ben non, c'est lui qui a raison en fait. C'est lui qui en se formatant, en disant je suis meilleur, va réussir avec le meilleur. C'est pas être se la raconter que de dire ça. C'est au contraire avoir cet objectif d'être le meilleur. Et Tony Parker, pour moi, est l'exemple parfait. Il est arrivé, il n'était rien pour nous, mais pour lui, c'était déjà le meilleur.
Mais tu l'as respecté du coup?
Forcément, tu le respectes encore plus vite parce que non seulement il dit que c'est le meilleur, mais en plus sur le terrain, il le montre. Ben tu fermes ta bouche, tu dis félicitations.
Marc,
non, mais c'est la preuve par le résultat.
Bien sûr,
c'est la preuve par un résultat. Je veux dire, il y a rien en fait dans le sport et dans le haut niveau qui viendra déloger ce que tu montres sur le terrain. Voilà, point. C'est tout. Tu peux avoir tous les discours, toutes les attitudes du monde, si t'es pas capable de prouver que t'es capable de faire ceci, cela, tu n'as le respect de personne. Dès que tu le prouves, c'est fini. La messe est dite.
Mais t'as pas vu des jeunes arrivés, David, aussi, derrière toi, qui peut-être disaient, tiens, je vais le déloger à Douillet, que t'as dû gérer?
Oui, bien sûr, des grandes bouches. Des bouches, il y en a toujours, dans chaque génération. Mais cela, c'est quoi? C'est des étoiles filantes. Au bout de 3, 4, 5 entraînements, un championnat, un machin, un truc, c'est fini, ça disparaît, ça se dégonfle. C'est des soufflets, ça.
Non, mais les bouches qui n'assument pas, on les respecte pas. C'est les bouches qui assument qu'on respecte, en fait. Si après, t'arrives à nous montrer que t'es meilleur que nous.
Par le résultat,
par le résultat.
T'es attentif à ça, Marc, en étant manager d'équipe, aux garçons, peut-être, qui, dans la parole, disent beaucoup avant d'avoir fait, ou,
Non, mais je regarde, j'observe, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est sur le terrain que ça se fait, c'est sur la route.
Ça, tu leur dis?
Mais je leur dis, quand les jeunes arrivent dans l'équipe au premier rassemblement, je leur dis, n'hésitez pas, faites-leur mal.
Ça, tu dis ça devant les grands?
Bien sûr. Et j'aurais dit à eux avant, quand ils étaient arrivés, avant les plus anciens. Donc c'est très clair. Et il faut que ce soit ainsi. C'est une jungle. Il faut faire sa place dans la jungle. Si tu fais pas ta place, t'es condamné. Il faut faire mal. Moi, je suis arrivé mes premières sorties d'entraînement chez Renault, à la grande époque Renault avec Bernard Hinault et il y avait des anciens. Et je me souviens d'une réflexion que m'avait faite quelques années après Bernard Kilfen, qui était en fin de carrière coureur et que j'ai eu ensuite comme directeur sportif chez Renault. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as pu m'emmerder à l'entraînement? Forcément, moi, je sortais des juniors, j'arrivais dans l'équipe, je voulais montrer que je savais pédaler. Et Kiki, c'était son surnom, Kiki me disait, mais qu'est-ce que tu m'as gonflé? T'avais un bonnet à l'époque et il me dit, j'avais le bonnet qui balançait à droite, à gauche devant mon nez toute la journée à l'entraînement, j'en avais ras la casquette. Mais quelque part, à ce moment-là, j'avais gagné son respect.
T'as eu peur, toi, quand t'es arrivé dans cette équipe où il y avait ces monstres,
non.
Apparemment,
t'imposer. Non, je me suis pas mis dans ce tempo.
Après, c'est une question de personnalité aussi.
Je me suis mis dans le tempo. Je veux faire ma place. Je veux être dans la plus grande équipe. J'y suis. Donc, je vais montrer que je suis capable de.
Ouais, ouais. Effectivement, c'est une question de personnalité parce que tout le monde n'a pas cette capacité.
Ah, si t'as pas la personnalité, disparaît.
Ah, non, c'est pas vrai parce que je l'avais pas. Je l'avais pas et j'ai joué pendant de nombreuses années après, mais en arrivant.
Non, mais tu l'avais pas, mais tu l'as eu,
Mais grâce à cette attitude et à tout, et j'ai fait ma place. Mais au départ, j'avais pas cette attitude du tout. Et je rejoins David pour finir le débat. Je remercie ces vieux-là qui ont été durs avec moi parce que grâce à eux, j'ai fait une carrière après.